ce retour de la pause là, moi. Ça faisait un bout de temps. Comment tu trouves ça, Émilie?
Ben, j'ai
parti à rire. T'es parti à
rire, hein? Oui.
C'est Guy aussi, c'est faire des A.
On a une circulation qui est passablement sympathique, à part Henri IV, évidemment. Pourquoi vous allez encore sur Henri IV, gang de maganés, de mêlés, de paupiètes? Vous êtes là. Tout le reste est beau, Duplessis, accueillant à plein. Robert Bourassa, sympathique parfaitement. Le boulevard Laurier, c'est beau. Les deux sens pour la 20 sur la rive sud, c'est beau, à part un petit bout dans le coin de Kennedy. Fait que c'est le fun, ça. C'est rare que ça arrive. Il y a juste Henri IV qu'il faut éviter.
Ouais, éviter Henri IV, là, ben de là, ça va pas bien.
Ben, je vais arrêter de le dire. Je dis ça à tous les jours. Je suis un peu tanné. Mini, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait plus la circulation parce que c'est tout le temps même affaire?
On ne dira plus Henri IV, on va donner d'autres choses à la place.
Ouais, on va le renommer. Quelque chose de même.
Ouais.
Hey, as-tu vu ça qu'elle avait une grève des postes encore aujourd'hui, toi, Émilie?
Oui, mais il ne parlait pas de Tibet, il parlait juste des autres de villes.
Exactement, les villes, c'est pour la journée. Victoria, Edmonton, Windsor et Halifax. Mais ça pourrait s'étendre à Québec prochainement parce que les défis semblent assez grands pour la négociation. Là. Les salaires, ça arrive pas. Ils veulent de l'équité entre les ruraux et les urbains. Ils parlent de surcharge de travail à cause des colis. Je pense que c'est plus surcharge de poids. Là.
Mais ils ont déjà parlé, tes enfants, ils voulaient plus mettre des... Donne des facteurs, là, pour mettre nos affaires au bout de la tête.
Puis pourtant, là, tu sais, que Trudeau avait arrêté un peu la patente. Il devrait pas trop se plaindre. Il se tire dans le pied. On l'a répété partout, souvent. Mais là, tu sais, il devrait être en mode compression post-Canada. Puis eux autres, ils font quand même des offres salariales d'augmentation. Puis sinon, on fait des coupures de services, etc. C'est particulier un petit peu.
Moi, mon tour roulant, et ça, c'est mon tour gay au bureau poste. Ça serait un petit peu plus compliqué, là.
Ouais, mais juste, c'est ça. Quand tu commences sur Wish ou sur... j'ai fait ça, d'ailleurs, j'ai reçu des shorts bien trop petites. Souvent, tu vas te faire livrer par quelqu'un d'autre qu'un postier. Pis c'est pas nécessairement FedEx ni UPS. Ils ont leurs petites agences à eux.
Oh,
ils engagent du monde, oui, depuis l'étranger. Ils ouvrent pas nécessairement des bureaux ici. Alors, je comprends pas en tout ce qui se passe dans la tête du syndicat des gens de Poste Canada. Et Éric Lantier, qui est au bout du fil, peut-être une piste de réponse pour moi.
Bon, on va vous demander.
Hein? Salut, Éric.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va?
Ça va. Écoute, c'est sûr que les postes, quand c'est en grève, ça crée un casse-tête, pas à peu près.
Ils s'aident pas eux-mêmes, là. Tu sais, c'est déjà précaire. Puis ils s'en vont briser des habitudes. Moi, personnellement, tu sais, ça me donne l'envie de, je sais pas, moi, m'abonner à un service en ligne de plus pour des choses que je reçois par la poste, mettons. Ça va leur enlever de la job. C'est un monopole. Puis c'est pas obligatoire. Il y a plein de places où ils l'ont enlevé. C'est pas un monopole important comme l'énergie au Québec, là. La poste, n'importe qui peut faire ça. J'ai jamais compris pourquoi on s'acharnait en ce sens-là. Puis ils aident pas leur cause. C'est juste ça qui maintient leur emploi. C'est ce monopole-là. Particulièrement.
Ce qu'aiment pas les postiers, j'ai parlé avec quelques-uns d'entre eux, c'est qu'il y a beaucoup de publicité et ça alourdit leurs tâches, ça rallonge leur temps de travail, ou par exemple, ouais, leurs sacs sont plus lourds, ou ils doivent faire, par exemple, plus d'arrêts parce qu'ils ont plus de matériel à cause de la publicité. Parce que Poste Canada reçoit énormément d'argent. Moi, j'ai ouvert une boîte postale, puis à chaque semaine, c'est rempli de publicité, puis je me dis...
Ouais.
Moi, je paye pour avoir une boîte postale qu'on la remplit de publicité. Pourtant, quand c'est gratuit, je comprends, mais là, je paye. Je ne peux pas en avoir.
Ah, il y a des réformes à faire là, mais juste dire, tu sais, les postiers, je les aime beaucoup. Je respecte leur travail. C'est une belle job, pareil, par exemple, avec des conditions intéressantes. Assurance ci, assurance ça. Sécurité d'emploi, même s'ils se plaignent là-dessus, ils en ont une très belle. Puis le salaire moyen, ça reste 22$ de l'heure. T'as pas besoin de qualification. C'est de quoi de physique, oui, mais il y en a qui aiment ça. Puis tu sais, c'est purement, là. T'sais, tu prends du stock, tu te le mets sur le dos, puis tu marches. C'est pas de quoi qui mérite 115 000 par année, puis quand même, il y a des salaires qui vont jusqu'à 60 quelques mille pour certains postiers expérimentés.
Mais il y a des personnes qui tu pourrais avoir, mettons, du tourier par la porte, mettons, et payer, mettons, et gros, t'es bête, Puis on peut faire ça pour être en
mer. Ben oui, c'est ça. On dirait qu'ils nous poussent vers là. Mais c'était pas notre sujet aujourd'hui. Nos sujets du tout, Eric. Je veux que tu me parles de l'instabilité émotionnelle de ma génération, les millennials ou les Y. C'est un genre de mélange des deux, là, l'étude, je pense, dont tu veux nous parler, qui montre qu'on a le corps de cette génération-là qui est dépressive, finalement. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre?
Bien, c'est que, ouais, c'est le corps des milléniaux qui ont déjà passé par une dépression majeure. Et okay. Donc.
Majeure?
Oui. Donc, c'est, en tout cas, avoue avoir déjà vécu une dépression. Et moi, ce qui me. Comment je pourrais dire ça? Ce qui me bug dans tout ça, c'est que 78% des jeunes qui ont été sollicités là, pour l'étude vivent des problèmes de stabilité émotionnelle. 78%, c'est énorme.
Mais voyons, c'est dans la grosse majorité.
Mais
c'est,
ouais.
Ben, c'est épeurant parce que c'est ce que ça donne quand t'as plus de misère. On dirait qu'on est fait pour ça. Tu t'en crées. Trouve-moi des instables émotionnels à Haïti. Ça marche pas. C'est non. Peut-être des critères d'analyse un peu trop ouverts aussi. Je sais pas. On a intégré quoi là, là-dedans comme.
Mais c'est que c'est qu'il y a des pistes qui sont intéressantes et il va falloir les approfondir ultérieurement. C'est que premièrement, lorsqu'on touche des problèmes de stabilité émotionnelle, on parle de maladies qu'on vit en solitaire. Donc on est seul, on veut pas trop en parler. Il y a encore beaucoup de tabous face aux maladies mentales, aux dépressions. Et ce qui arrive, c'est que le stress, c'est le mal silencieux du 21e siècle.
Ouais, ça. C'est sûr que tu sais, t'as pas à t'inquiéter nécessairement pour ton repas du soir, puis ton chauffage, puis d'aller aux toilettes dehors pendant la nuit à moins 20. Sauf que quand tu vas au travail, il y a 56 000 objets d'analyse nécessaires de plus pour toi. Mm-hmm. Puis les normes, juste élever un enfant, hey, c'est moi j'ai un bébé de 4 mois, c'est normé jusqu'à comment t'enlèves les crottes de nez de ça, là.
Mm-hmm.
Puis sinon, t'es un mauvais parent, puis tu sais, c'est pas long que t'es pointé du doigt, alors que dans le temps, hein, il en échappait des décès de bébés à la naissance, c'était quelque chose comme 1 sur 10, même au Canada. Fait que, oui, on n'est pas juste plus des paupiètes, comme j'aime à dire, là, mais peut-être aussi que ces études-là, tu sais, ils vont chercher loin. Là, 1 sur 5 seulement, dans le fond, finalement, n'a pas de problème de santé mentale.
Ouais. Ben, tu sais, il y a toujours des gradations par rapport à ça. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est à partir de 13 ans que les symptômes dépressifs commencent vraiment à se faire sentir. Là, ce qui arrive, c'est que ça commence à se faire sentir de plus en plus jeune. Et,
ouais.
Et donc, c'est sûr que ça va avoir des répercussions au niveau des rendements scolaires ou ça va avoir des répercussions sur le budget de l'État parce que le gouvernement va devoir fournir encore plus de services pour aider les jeunes à passer au travers ou s'en sortir. Avant, c'était la famille qui faisait ça. Avant, c'était le village, c'était la paroisse, c'était la communauté. La communauté se tenait. Maintenant, puisqu'il y a de plus en plus d'individualisation, ben là, les gens, quand ils vivent un mal de l'être, un mal-être, eh bien, ils se ramassent seuls et c'est là que ça commence.
Tu sais que c'est rendu qu'il y a 33 % des ménages au Québec qui sont formés de personnes seules. C'est quand même un appartement ou maison sur trois. Il n'y a rien qu'un adulte qui habite là puis qui est le boss de la maison. C'est clairement que ça fait que, oui, il y a une tendance, ça le montre. La solitude, c'est quelque chose qui se répand, effectivement, de plus en plus, malgré qu'on ait de plus en plus de personnes qui foulent le sol ici. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à tout ça, Éric Lantier? On aime toujours être en mode solution, là, pour que les jeunes, que ça remonte la pente, là, ces statistiques-là, qu'on ait des meilleurs résultats. Ça passe par l'éducation à l'école en premier, j'imagine, selon toi?
Ben, ça passe par la sensibilisation, mais ça passe aussi par chaque adulte qui, par exemple, a des neveux, des nièces, des cousins, des cousines plus jeunes, s'intéresser à ce qu'ils vivent, les faire parler sur ce qui les intéresse, ce qui les passionne, d'être une écoute Et moi, je pense que les gens les plus recherchés, ceux qui vont être les plus recherchés dans les 5-10 prochaines années, ça va être des gens qui vont avoir une capacité d'écoute active.
Ouais.
Parce que les gens ont besoin d'entendre ou ont besoin de réaliser qu'il y a des gens qui veulent les écouter, qui sont intéressés par ce qu'ils ont à dire au-delà de la pluie et du beau temps.
Ouais.
Et ça, c'est le meilleur remède, là, c'est d'être disponible pour écouter des gens qui ont quelque chose à dire.
En même temps aussi, peut-être faire un peu de dédramatisation. Ça, c'est pas nécessairement de l'écoute, c'est plus de l'intervention. Mais c'est parce que je sais pas si t'as vu la dame là qui à Stoneham, je pense, là, dans le coin de Québec en haut au nord, son petit gars va à l'école là puis il est victime d'intimidation. Il y a 8 ans. Elle filme en train de pleurer qui dit qu'il se fait faire mal puis rire de lui à l'école. OK. C'est parce que ça, c'est le classique. Apprends-y à se débrouiller là-dedans au lieu d'en faire la victime suprême du Québec. Là. Il y a des centaines de milliers de personnes à cette heure qui identifient son gars, probablement beaucoup à son école, comme le mouton qui se fait manger à l'aine sur le dos. Tu sais, des fois, des gens qui vont dédramatiser les affaires. Je pense que on monte beaucoup de choses en épingle. C'est mon enfant a pleuré là, fait que la terre devait arrêter de tourner. Peut-être d'y dire, tu sais, garde, prends ta place, c'est pas grave, ça m'est arrivé. Des affaires de la dédramatisation, ça devrait être enseigné des écoles, ça aussi peut-être.
Oui, dans certains cas, il y a certains cas que oui, s'il doit y avoir la dédramatisation. Et c'est sûr. Mais en même temps, il y a des gens qui sont plus fragiles, plus sensibles, sont moins fonceurs, puis c'est là qu'on a besoin de les entourer.
Oui, absolument. Et on s'entend très bien là-dessus. Ceci étant dit, on va avancer parce que le temps file. On a un autre sujet sur le radar qui n'a pas de lien du tout. Je pense bien que Charles Taylor est en bonne santé mentale. L'homme qui nous avait amené le fameux rapport Bouchard-Taylor avec son partenaire, M. Bouchard, le frère de l'autre, sur les accommodements religieux raisonnables ou non. Ça a pris 10 ans avant qu'on applique son affaire. Puis là, ben il n'est plus d'accord avec lui-même. Il a fait une sortie.
Ben, il y a deux choses là-dedans. Lui, M. Taylor a dit, ouais, il y a des éléments dans le rapport que j'ai signé parce que je voulais qu'on arrive à un consensus, mais je n'étais pas 100% à l'aise avec.
Ah,
ça, c'est une chose.
Ouais.
L'autre chose, c'est que lui, il va dire que la CAQ, quand elle dit, nous, on veut appliquer Bouchard-Taylor, il dit, c'est pas tout à fait honnête, c'est pas tout à fait juste, parce que le fait de bannir les signes religieux chez les enseignants ne faisait pas partie du rapport Bouchard-Taylor. Et quand ça vient de la bouche de M. Taylor, c'est sûr que ça a du poids.
Oui, pas de doute. Ben, à mon souvenir, c'était le cas, moi, pourtant. OK, ben, il doit le savoir.
Mais, ah, oui.
Mais avec une clause grand-père, est-ce qu'il s'est prononcé sur ça? C'est quand même pas non plus si plus extrême que ça.
Non, ben,
avec la clause grand-père?
Il s'est pas prononcé là-dessus. En tout cas, du moins, j'ai pas trouvé de trace à l'effet qu'il s'est prononcé là-dessus. Par contre, il a dit quelque chose que d'intéressant, c'est qu'il a dit à l'époque, la tension était plus élevée. Maintenant, si on laisse aller les choses puis on gère ça avec le gros bon sens, là, je résume ça dans mes mots, on va finir par avoir une société qui va être tolérante puis on n'aura pas besoin de rebrasser ces choses-là. Il dit que en 2018, là, c'est pas le temps de rebrasser ces choses-là parce que les cas, premièrement, ça va être des cas isolés et les gens sont de plus en plus habitués à voir des gens qui s'identifient à leur religion par des symboles. Alors, à ce moment-là, pour lui, il dit, on devrait laisser ça aller.
Ah bon? Puis bon, quand on va être rendu à 100 millions, ben pas 100 millions, à 100, je sais pas, 100 000 personnes dans la fonction publique, on sait qu'il y a quoi, 600 000 personnes au Québec qui travaillent dans la fonction publique, quand on va être rendu avec un sixième du monde qui ont des signes religieux d'en face, puis que des citoyens se demandent quelle notion ils mettent de l'avant en premier, l'État ou leur religion, ben ça va être là que ça va être le temps de faire des aménagements réglementaires. Voyons donc. Lui, il veut juste qu'on touche pas à ça du tout parce que pour prouver une espèce d'ouverture qui manque pas nécessairement aux gens qui sont pas d'accord avec lui. Je trouve ça un peu pathétique. Pourtant, l'homme est un des grands philosophes que le Québec a porté.
Oui, tout à fait. Il y a une renommée internationale. Mais en même temps, Guillaume, moi, je prône... Parce qu'on est à la croisée des chemins. On a le choix de rabaisser les autres ou s'élever. Et je pense que ce que ça montre, c'est qu'on n'est pas suffisamment fiers de notre culture puis de notre patrimoine. Parce que si on mettait en valeur notre culture puis notre patrimoine, ça nous dérangerait pas de voir qu'il y a certaines personnes qui, eux, veulent mettre en valeur leurs symboles religieux. Mais le problème, c'est qu'on se sent menacé par eux.
Intéressant.
Et le fait qu'on se sent menacé, eh bien, c'est là qu'on est sur la défensive.
Ouais, et puis si c'est pas dans ce temps-là qu'on est le plus glorieux.
Pardon?
C'est pas quand on est sur la défensive qu'on est le plus glorieux.
Ben non, exactement. Parce que regarde les Canadiens de Montréal. Quand ils jouent défensif, ils sont pas les meilleurs.
Je pense qu'ils vont nous reprendre dans 2.0 gérant d'estrade à soir. Eh bon, tabarnouche. Ouais. OK.
C'est ça.
Avais-tu fini sur Charles Taylor?
Oui, c'est ça. Donc, lui, il a fini par une phrase, une phrase qui est vraiment pas longue. Il a fini avec deux mots, « drop it ». En voulant dire,
ben ouais. Ça. Mais c'est révélateur. Il veut pas toucher à ça. C'est trop fatigant. Puis, écoute. Pourtant, un coup que ça va être vraiment encadré, on n'aura plus à en parler. C'est la tergiversation qui a dans ma tête, mis le feu aux poudres depuis des dernières années, puis qui a suscité une certaine intolérance, une montée de ça dans bien des esprits. On verra qui a raison dans quelques années. Je pense qu'on va finir par le savoir avec ce que la CAQ veut faire. Sinon, parlant de CAQ et de parti un peu plus à droite, tu voulais me jaser de la chronique de Richard Martineau de la journée dans le Journal de Québec qui parlait, qui incitait un peu les gens avec des vues conservatrices à se préoccuper d'environnement. J'ai parlé de ça justement sans la chronique de M. Martineau en particulier. J'ai parlé d'environnement avec Stephen Blainey tantôt. On se rendait compte ensemble que les pluies acides, ça a été réglé par des conservateurs. Le trou dans la couche d'ozone, même affaire. Fait que c'est pas vrai que c'est incompatible, la droite et l'environnement. Il n'y a pas de doute là-dessus.
Non, c'est clair. Puis, écoute, si on fait juste penser à la réduction des ordures, lorsque les municipalités optent pour le compostage pour réduire les ordures, on regarde à Calgary, ils ont réussi à réduire de 40% les ordures ménagères.
Okay.
Ici à Gatineau, on va baisser éventuellement la taxe qui est reliée à la gestion des ordures. Donc, lorsqu'on met de l'avant certaines réformes, quand elles sont justement bien gérées avec des objectifs précis, puis on le gère intelligemment, ça crée des dividendes. Et je pense que le mouvement conservateur, pour pas juste l'appliquer à un parti politique, mais l'ensemble des conservateurs auraient intérêt à réfléchir à des idées novatrices en termes d'environnement, mais qui vont en même temps à rapporter aux concitoyens.
Ouais.
Et puis certaines mesures qui vont se faire par étapes, et d'autres d'essayer de trouver de l'innovation.
Ben oui.
Que ça puisse rapporter.
Technologique, genre la fameuse machine qui capte le CO2 puis qui fait des pocs de hockey. Pas littéralement, mais ça se ressemble. Virez-moi ça en vrai poc de hockey. Puis là, c'est le temps peut-être de donner un petit crédit d'impôt puis une subvention à la limite, là. Parce que les conservateurs, comme on a, en tant que parti, supposément dans l'idéologie, ce serait pas des distributeurs de subventions puis d'affaires de même, mais ils font pareil. Fait que tant qu'à le faire, pourquoi pas aller dans des solutions vraiment innovantes comme ça. Puis là, il pourrait y en avoir, on pourrait en nommer toute le reste de la journée. Juste aussi l'histoire du plastique dans les cours d'eau. N'est pas me dire qu'on peut pas inventer des affaires qui vont ramasser ça. Si on regarde d'avoir un robot dans une piscine, en se mettant à gang, on peut toujours bien avoir de quoi, pour exemple, le Saint-Laurent, le tenir dans un état qui est meilleur que celui actuellement, même s'il est meilleur qu'il a déjà été auparavant. Très intéressant, ça.
Oui, et
la
je pense
CAQ.
Que... Oui.
Ah, vas-y.
Mais ce que j'aime de Richard Martineau, c'est que la façon qu'il écrit son article, c'est comme si la gauche a volé ce sujet-là.
Ouais,
cet élément-là, la gauche dit l'environnement, c'est nous. Nous sommes l'environnement.
On a le monopole, là.
Exactement. Et c'est là qu'à un moment donné, la droite doit se réveiller en disant non, nous aussi, on est pour l'environnement, ben on va l'adresser d'un autre point de vue, sous un autre angle, mais on veut aller de l'avant et faire avancer cette cause-là.
Ce serait pourtant tellement facile. Il enlèverait le tapis en dessous des pieds d'un gars, exemple comme Justin Trudeau, qui met tous ses efforts sur le CO2. Puis de l'autre côté, les nappes phréatiques, le plastique dans l'océan, le ramassage des ordures, le recyclage, etc. Là, c'est devenu des grenouilles. C'est le gros morceau de l'environnement, c'est juste le CO2. Alors que, je suis désolé, il y a encore un petit doute sur ce gaz-là. Même chez les scientifiques qui sont spécialisés dans le climat, il y a peut-être plus d'apport du chlore qu'on pensait encore il y a 2-3 ans. Bon, mais ça reste que c'est le CO2 qu'on bat. On met toutes les ressources là, le reste, c'est des petits bouts. Les conservateurs proposaient d'inverser ça puis trouver des causes. Exemple aussi, la forêt boréale. La CAQ avait à peu près pas de programme environnemental, d'autre que dire ben on va respecter les accords avec le fédéral puis tout ça. Il y avait une belle opportunité de dire, exemple, ils avaient enlevé le tapis en dessous des pieds de Québec solidaire, du Parti vert même, du NPD Québec que j'ai eu ici. Je leur demandais, avez-vous un projet d'air protégé en forêt boréale? On est-tu de bord de passer au travers, au complet? Il ne restera plus une zone de plus que 300-400 km² vierge. Il n'y en a pas un de ces partis, supposément, dont les partis verts. Il n'y avait rien dans ce sens-là. Québec solidaire non plus. Ça aurait coûté quoi à la CAQ, à sa base électorale, d'amener un projet comme ça? Rien du tout. Puis ça aurait pu aller chercher des gens qui étaient sceptiques justement pour cette lacune-là en environnement. Faut qu'ils s'éveillent.
Puis même au provincial, par exemple, la CAQ ou le Parti conservateur du Québec aurait pu sortir comme idée de dire on va donner de l'argent aux universités qui vont faire de la recherche pour inventer un genre d'aspirateur qui va aller chercher les bouteilles sur le bord de la mer au Liban. Parce que au Liban, oui. Il y a des tracteurs qui se promènent sur des bancs de bouteilles sur le bord de la Méditerranée pour aller les jeter plus loin. C'est incroyable.
Ouais. Toute la côte de l'Afrique ouest, là, c'est terrible. Puis ça a l'air que, tu sais, il y a la Chine, évidemment. Bon, on va les laisser s'aider eux-mêmes. Là. C'est moins problématique que l'Afrique. Puis d'ailleurs, ils font des efforts quand même, les Chinois. En ce sens-là, ils n'ont pas le choix. Ils sont à la gorge. Là. Mais oui, la pollution dans l'océan, ça vient de, je sais pas, 5-6 cours d'eau des fleuves, là. Puis c'est pas le Saint-Laurent, là. Fait que, et oui, se tendre la main pour des causes internationales comme ça, ou, en l'occurrence, pour une fois, on pourrait avoir de l'aide vraiment de bon cœur, comme on dit, là, détaché. Parce que, généralement, quand on fait de l'aide internationale, on fait ça de façon liée, qu'ils appellent. Ben, toi, Haïti, je te donne 1 million, mais t'achètes tout ce dont t'as besoin avec ça de produits canadiens. Puis tu peux pas ramasser tes cours d'eau. C'est pas ça que je t'ai donné comme aide. Je t'ai donné ça de quoi bâtir des habitations. T'achètes du bois canadien. Puis je veux des poches de riz, des poches de céréales, des prairies. Il y a moyen de changer la vision de ça, ne serait-ce qu'avec l'environnement. Puis pourquoi pas la droite pourrait se mettre là-dessus. Moins de la lutte.
Oui, puis avoir justement une vision rentable de l'environnement et non pas toujours une vision déficitaire où est-ce que l'État finit toujours par injecter de l'argent mais que ça rapporte jamais.
Exact.
Et c'est là que la droite pourrait contribuer.
Je pense qu'il y a bien des possibilités en ce sens-là, puis espérons que l'appel de M. Martineau et de nous, même aujourd'hui, puis de bien d'autres gens, je pense, à l'occasion, ça soit entendu, puis que ça paraisse dans les prochaines campagnes. On en a une au fédéral qui arrive bien vite, là.
Absolument.
Oui, monsieur. As-tu écouté Justin à Tout le monde en parle pendant la campagne fédérale?
Non, j'ai pas écouté Justin, mais je pense que je vais l'écouter cette semaine, c'est sûr. Mais hier, on dirait que j'avais des choses plus importantes à faire que d'écouter Justin. De ce temps-ci, Justin, m'a dit honnêtement, là, en bon québécois, il me tape ses nerfs.
Mais il a de l'air d'avoir de la misère aussi. Il a pas de l'air affilé nécessairement. C'est pas facile là, pour M. Trudeau. Mais non. Ça en est fait passer une méchante grosse avec le nouveau partenariat de commerce. Là. Donald Trump a de quoi monter ses tables pour faire le party. Ses propres conseillers économiques ne croyaient pas que ça pouvait être possible de d'avoir les gains qu'il a obtenus là.
Mais écoute, Donald Trump, là, il y avait Justin Trudeau là, dans sa poche, là, c'était évident. Ouais. Et puis, écoute, moi, je pense que c'est dans ces temps-là que je m'ennuie de Stephen Harper, parce que Stephen Harper, lui, il se laisse pas niaiser. Il y a une certaine fermeté qui est intéressante. Oui. Des fois, c'est fatigant, parce qu'il ne sourit pas, mais dans ces situations-là, c'est là que ça paye.
Ben là, je suis assurément certain d'avoir obtenu un meilleur résultat si ça avait été M. Harper, ne serait-ce que par affinité politique. Tu sais, ça se place bien, ça, dans un appel. Hey, je suis ton bord, moi, je suis conservateur. C'est quoi, tu veux me faire voler de là, là? Aide-moi un peu, là, faut que j'en donne. Ou t'as mieux avoir un gouvernement qui est contre toi dans la gauche complètement, tu sais. Bon, ne serait-ce que ça, mais oui, je pense qu'il y aurait eu des meilleures tactiques devant un Trump qui était prêt à remettre tout en question à ce point-là. D'ailleurs, je pense qu'il s'est prononcé, Monsieur Harper. Il a sorti un livre là, sur des tendances nationalistes à la Donald Trump récemment. Je serais bien curieux de savoir vraiment le fond de sa pensée sur ces négociations-là. Mais, on est obligé de le dire, il a bien mené ses affaires de l'autre côté, le monsieur à la chevelure dorée. C'est assez impressionnant, là.
Ben écoute, il n'est pas devenu milliardaire pour rien. Hein. C'est le gars, même s'il a des défauts et qu'il a un caractère assez particulier, disons-le comme ça.
Moi.
C'est quand même un homme d'affaires, un homme qui sait débattre et qui a toujours voulu tirer son épingle du jeu puis sortir gagnant.
Ouais, mais on essaie de nous le présenter comme le dernier des idiots de l'histoire, là. Et c'est pas le cas. C'est ça qu'il faut retenir, là. Il peut l'échapper, il est pas tout le temps fort, mais il est pas si pire que ça. Je suis en train de lire, là, j'ai à moitié lu du livre de Bob Woodward sur son compte, là. Oh. Et les premières pages, tu sais, tu comprends qu'il y a un angle, lui, qui veut faire mal, on dirait, pis tout ça. Mais plus tu lis, plus tu perçois des tu sais, il en donne à Donald Trump, Bob Woodward, qui doit l'haïr de base, là, tu sais, c'est un démocrate, lui, là. Il a pas écrit sur Obama, là, pour le descendre. Sérieux, je recommande vivement cette lecture-là. Oui, tu vois des affaires, qui sont farfelues puis tout ça. Mais, il est surprenant, Donald, en lisant Bob Woodward, là. C'est pas peu dire. Il a fait des affaires pas si pires que ça, à bien des égards.
Oui, ben c'est sûr que lui, c'est son objectif, c'est « Make America Great Again ».
Ça, pas Canada.
Non, c'est ça. Ben, il va le faire au détriment des autres, mais il veut arriver à son but, même si ça fait mal aux autres. Et je pense que le Canada n'était pas préparé à cette avenue-là.
Exact. Il n'y a pas grand monde qui était prêt pour Donald. On était prêt pour se parler. Je suis bien heureux qu'on l'ait fait. Merci, Éric Lantier. On peut aller te voir sur ton site, te jaser là-dessus directement. Il y a une plateforme de discussion, me trompes-tu?
Oui.
Éric Lantier.net. On va aller faire un tour. Merci, mon ami. On se parle la semaine prochaine.
Merci. Bye-bye.
Éric Lantier, mesdames, messieurs, un de nos chroniqueurs les plus appréciés. Gênez-vous pas pour aller poursuivre la discussion avec lui.